Vous écoutez
RMC.
Vendredi 15 mai,
l'info sur RMC.
Il est pratiquement 6h. Céline Kallmann est là pour les dernières informations. Bonjour Céline.
Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Vacances d'été, autoriser le sauvetage du secteur touristique est la priorité du gouvernement qui a donc donné son feu vert. De quoi regonfler le moral des Français. L'hydroxychloroquine, traitement prôné par le professeur Raoult, ne permet pas d'éliminer le Covid-19 plus rapidement que des traitements standards. Résultat de deux études publiées ce matin, on vous explique tout dans ce journal. Et puis rien ne va plus à Marseille. Le départ de son directeur sportif espagnol Zubizarreta est acté. Un départ qui pourrait bien avoir des conséquences sur l'avenir de l'entraîneur André Villas-Boas. Bienvenue à tous sur RMC. La semaine dernière, Emmanuel Macron promettait un été apprenant et culturel. Hier, Édouard Philippe a été beaucoup plus dans le concret et il a levé le doute concernant les vacances d'été. Vous pourrez partir en juillet et en août, sous réserve évidemment de possibles restrictions très localisées. Vacances autorisées donc qui regonflent le moral des Français que nous avons interrogés. Garance Munoz.
Elle s'imaginait passer l'été à Paris, mais Laure pourra finalement aller dans le sud de la France.
On est ravis de pouvoir partir. On avait hâte. Et les enfants aussi, ils en ont marre. Donc, pouvoir sortir de Paris juillet-août, très bonne nouvelle.
Très bonne nouvelle aussi pour François qui ne regrette pas de ne pas partir à l'étranger.
La France, c'est vachement bien. Il y a plein de coins super. Il ne faut pas forcément aller dans des pays très exotiques pour voir des choses chouettes.
Valentine reste sceptique. Elle prendra sa décision au dernier moment.
Un jour, c'est comme ça. Un jour, c'est autrement. Donc, on attend vraiment la dernière minute pour savoir si oui, vraiment, on va pouvoir partir en vacances et où est-ce que ça sera.
Les professionnels du tourisme espèrent, eux, des réservations de dernière minute, mais ils ne pourront pas rattraper le retard accumulé, selon Didier Arino, directeur général de ProTourisme.
Il est fort peu probable que les acteurs du tourisme puissent remplir leurs hébergements. À noter aussi qu'un certain nombre, devant l'incertitude, ont décidé de ne pas ouvrir leur hébergement car leur modèle économique ne leur permettra pas d'ouvrir pour cet été.
Selon lui, les séjours à la montagne et à la campagne seront les plus prisés.
Au total, l'ensemble des mesures annoncées hier représente un engagement de plus de 18 milliards d'euros pour les finances publiques. C'est sans précédent, massif, nécessaire, a déclaré le Premier ministre, qui a appelé donc les Français à prendre leurs réservations, tout comme la SNCF, dont la vente des billets pour cet été ouvre ce matin. La compagnie ferroviaire promet des billets échangeables ou remboursables sans frais. Toutes les précautions seront prises, assure le patron de la SNCF Voyageur, Christophe Fanichet.
Nous serons au rendez-vous et vous pourrez réserver tous vos billets de train pour pouvoir partir en vacances en juillet et en août. Et j'ajouterai que tous nos billets seront échangeables et remboursables gratuitement. Jusqu'au 2 juin, les conditions elles sont très connues. Tous nos trains sont nettoyés tous les jours et désinfectés. Pour les trains de longue distance, y compris avec des nettoyages en parcours. Et puis, à partir de 2 juin, sans doute de nouvelles conditions sanitaires vont apparaître et l'entreprise s'adaptera sur ces nouvelles conditions.
Autre annonce également hier, la réouverture des bars et des restaurants dans les départements classés verts, date fixée au 2 juin prochain. Et une mesure pour soutenir les restaurateurs, le plafond journalier des tickets resto sera doublé à 38 euros dès que les établissements auront rouvert. Notez que la France va imposer une quarantaine aux voyageurs en provenance d'Espagne. Et puis l'Assemblée a validé hier soir la prolongation de 6 mois de la validité des titres de séjour des étrangers, 3 mois de plus pour les attestations de demande d'asile en raison du contexte. Contexte sanitaire lié au coronavirus. Le Covid-19 qui a dépassé les 300 000 morts dans le monde. 80% des victimes ont été recensées en Europe et aux États-Unis. Deux nouvelles études publiées aujourd'hui concluent à l'inefficacité de l'hydroxychloroquine. Ce médicament controversé contre le paludisme vanté notamment par le professeur Raoult Rémink.
Oui, deux études menées dans deux pays différents qui montrent que l'hydroxychloroquine ne semble pas efficace contre le Covid-19, que ce soit d'ailleurs chez des patients gravement ou plus légèrement atteint. La première étude, elle est menée par des chercheurs français. Elle porte sur 181 patients adultes admis à l'hôpital avec une pneumonie due au Covid-19. Des patients qui avaient besoin d'une assistance respiratoire, de l'oxygène. 84 d'entre eux ont reçu donc de l'hydroxychloroquine quotidiennement, moins de 2 jours après leur hospitalisation. Et conclusion, eh bien, pas de réduction significative des risques d'admission en réanimation, ni de décès chez ces patients. Le fait de recevoir ou pas ce traitement n'a en fait rien changé. Deuxième étude, elle est menée par une équipe chinoise. Elle parvient aux mêmes conclusions et met en avant également des effets secondaires plus importants comme des troubles digestifs. Notons d'ailleurs que les autorités sanitaires de plusieurs pays ont déjà mis en garde contre le risque d'effets secondaires indésirables de l'hydroxychloroquine, notamment cardiaque.
Merci Rémi. Le vaccin doit être extrait des lois du marché. Réaction de l'Élysée après l'annonce de Sanofi de distribuer le vaccin s'il est trouvé par ce laboratoire d'abord aux États-Unis. RMC 6h04. Allez-vous pour ce premier week-end de déconfinement revoir des amis, la famille? Allez-vous aussi retourner faire les boutiques? Les commerçants, eux, sont prêts et espèrent voir affluer les clients. Grégory Hudron, Mélanie Delaunay.
Depuis lundi, les petits commerces du centre-ville retrouvent timidement des couleurs. Jérôme est gérant d'un magasin de jouets.
Il y a eu du monde, il y a eu du passage, il y a eu des achats, il y a eu des ventes depuis le début de la semaine. C'est bon signe.
Malik gère un magasin d'objets. Claire est vendeuse dans une boutique de vêtements. Ces deux commerçants espèrent que le week-end permettra de redémarrer l'activité pour de bon.
C'est un peu qui tout double. Est-ce que les gens sont encore un peu frileux et vont rester à la maison? Ou est-ce que ils ont des envies d'achat, besoin un peu de sortir? C'est un peu l'expectative, on va voir.
Bon, les gens aussi ont repris le travail aussi, donc sont peut-être moins disponibles. Peut-être que samedi, on aura un peu plus de monde. On va voir, on est prêts, on les attend.
Des clients attendus avec impatience pour tenter de rattraper d'énormes pertes. Odette Dedé préside une association de commerçants du centre-ville.
Il faut que ça reprenne, parce que sinon, on ne tiendra pas. De toute façon, on ne peut pas tenir 2 mois sans chiffres. Il nous faut du monde. Il faut que des gens viennent reconsommer chez leurs petits commerçants et aider le commerce de proximité s'ils veulent le garder.
Les professionnels redoutent également un retour des manifestations le week-end. Le préfet de l'Hérault a notamment interdit un rassemblement des gilets jaunes prévu demain à Montpellier.
Et plusieurs associations et syndicats appellent le gouvernement à retirer définitivement sa réforme de l'assurance chômage. Pour l'instant, il a été décidé de reporter l'entrée en vigueur de ce texte au mois de septembre. Mais pas de le supprimer. Comme le demande Claire Hédon, elle est présidente de l'association d'aide aux plus démunis ATD Carmonde.
On voit à quel point une crise comme celle-là est un aggravateur d'inégalités. Et ça va mettre beaucoup de personnes au chômage. On trouve du coup que c'est absolument pas le moment d'appliquer cette réforme du chômage. On était déjà contre avant, mais je pense que vu la situation actuelle, et tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut construire un monde différent, un monde d'après qui ne soit pas le même, une des premières choses à faire, c'est d'annuler complètement cette réforme de l'assurance chômage. Quand on sait que le gouvernement dit lui-même on ne peut plus faire comme avant, honnêtement, ça ne me paraît absolument impossible que cette réforme d'assurance chômage soit appliquée.
Bien, justement, c'est une question que je vais poser. Très, très, très importante l'intervention de Muriel Pénicaud tout à l'heure. Je vais lui parler de l'assurance chômage, évidemment, du retrait de la deuxième partie de l'assurance chômage, du projet de loi. Mais je vais lui parler aussi, évidemment, du chômage partiel et évidemment du télétravail. Tout à l'heure, à 8h35.
Dans l'actualité également, une mère d'élève a déposé un recours en urgence auprès du tribunal. Elle s'insurge contre la fermeture des écoles maternelles de Bobigny jusqu'en septembre. Cette maman dénonce une décision de la ville qui aggrave les inégalités scolaires. À retenir aussi le parquet de Paris qui souhaite que les 2 suspects du meurtre de Mireille Knoll soient jugés aux assises pour crimes à caractère antisémite. Mireille Knoll, 85 ans, avait été tuée chez elle à Paris en mars 2018. Ayad Boumediene, l'épouse d'Amedi Koulibaly, celui qui a conduit l'attaque de l'hypercachère en janvier 2015 à Paris, serait-elle encore en vie? C'est ce qu'affirme une djihadiste présumée incarcérée depuis son retour en France fin 2019. Elle dit l'avoir croisée en octobre de cette même année. Une enquête a été ouverte. Le football est à l'arrêt, mais sur le terrain, mais depuis quelques semaines, quelques mois, il y a du mouvement à Marseille. Le club phocéen a officialisé le départ de son directeur sportif espagnol, Andoni Zubizarreta. Un départ qui pourrait aussi avoir des conséquences sur l'avenir de l'entraîneur André Villas-Boas, Florent Germain.
Oui, c'est même désormais la préoccupation première des supporters marseillais. Est-ce que le départ d'Andoni Zubizarreta provoquera celui du coach André Villas-Boas? C'est la tendance ce matin. L'entraîneur portugais avait lié son avenir à celui du directeur sportif espagnol. Villas-Boas a rencontré lui aussi Jacques-Henri Hérault cette semaine. Le coach de l'OM s'est montré très agacé par la tournure des événements et par le manque de moyens de l'OM. Il a donc informé le président olympien de sa volonté de quitter le club phocéen. Villas-Boas se laisse 24 heures pour acter les choses et échanger avec Jacques-Henri Hérault qui arrive posté en lui proposant une prolongation de contrat, mais sans trop y croire. Les joueurs de l'OM, de leur côté, qui adorent leur coach, sont inquiets et se disent persuadés que dans ces conditions, personne ne pourra retenir André Villas-Boas.
Oui, nous verrons. Pas facile à Marseille. C'est un club étrange quand même, l'OM, que j'adore. Moi, j'adore l'OM, mais attention. Voilà un club qui est qualifié pour la Ligue des Champions et qui trouve le moyen d'être en crise presque chaque année. Pas chaque année, mais presque chaque année. Il est 6h09. Bien, merci d'être avec nous. Allez, 6h09, on va parler beaucoup des vacances. Nos vacances, vos vacances. Nous allons parler de notre week-end. Vos week-ends, qu'allez-vous faire? Et puis, nous allons parler de cette semaine. Première semaine de déconfinement. Comment ça s'est passé? Tout de suite, Marine, qui est bordelaise. Bonjour, Marine.
Bonjour, Jean-Jacques. Comment allez-vous?
Ben, ça va très bien, Marine. Vous regardez la radio, vous écoutez la télé, Marine, le matin?
Je vous écoute à la radio, dans ma voiture, en allant à mon travail d'infirmière libérale dans le Médoc, près de Bordeaux.
Dans le Médoc, infirmière libérale, Marine. Alors, ce week-end, qu'allez-vous faire, Marine?
Alors, ce week-end, Jean-Jacques, je prends mes clics et mes claques et je me tire sur le bassin d'Arcachon. J'ai la grande chance d'avoir ma grand-mère qui a une petite résidence secondaire qui est complètement vide, du coup, depuis 2 mois et demi.
Oui.
Donc, en plus, ils annoncent un grand soleil pour ce week-end alors qu'on est sous des trombes de flotte depuis lundi.
Oui.
Donc, je prends mes deux enfants, mon mari, et on va tous les quatre passer un petit week-end tranquille sur le bassin.
Mais ça, c'est merveilleux, ça,
hein. Ça, c'est merveilleux.
Vous l'attendiez, j'imagine que vous l'attendiez, Marine, hein.
Je l'attendais vraiment, surtout mes enfants. Ils ont respecté parfaitement le confinement pendant
bien
2 mois. Ils sont sortis qu'une fois pour le jour de Pâques.
Oui.
En tant qu'infirmière, j'ai travaillé. Mon mari est artisan, donc il était tous les jours aussi au turbin. Donc ce petit week-end à Arcachon, ça va vraiment être un petit moment pour se retrouver au grand air et voir la mer et changer un petit peu de l'atmosphère de Bordeaux.
Mais vous avez bien fait. Merci Marine. Passez un très très bon week-end.
Merci à vous Jean-Jacques. Passez une bonne journée. Et bon déconfinement à vous.
Merci beaucoup et merci d'être avec nous. Des centaines de plages vont rouvrir ce week-end, surtout sur la côte atlantique, Quentin.
Oui, les surfeurs, les promeneurs, les joggeurs, les baigneurs, les pêcheurs vont retrouver l'océan au Pays Basque. Mais attention, on ne pourra pas rester couché sur le sable, que ce soit à Anglet, à Biarritz, à Saint-Jean-de-Luz. Autrement dit, il faudra bouger, vous savez, vous connaissez le terme maintenant, c'est le principe de la plage dynamique. Ce sont les mêmes conditions...
Ça me fait marrer. Allez-y,
conditions. En Gironde, on dit compris sur le bassin d'Arcachon, on vient d'en parler, les plages ouvriront dès 6h le matin. Pourquoi 6h le matin? Parce que les vagues sont meilleures le matin pour les surfeurs. Par contre, il faudra attendre sans doute une semaine encore pour escalader la dune du Pila. Les plaisanciers aussi vont pouvoir ressortir les bateaux. Ce sera le cas, par exemple, dans le nord. Là aussi, les plages rouvrent, mais par petits groupes et avec un sens de circulation sur la digue, par exemple, à Dunkerque. Mmh. Ailleurs, des réouvertures sont prévues également en Vendée, dans le Finistère, sur la Côte d'Azur. Des décisions doivent être prises rapidement en Charente-Maritime ou dans les Landes. Par contre, à Deauville, le maire redoute un raz-de-marée s'il venait à rouvrir les plages.
Oui.
Et en Corse, le maire d'Ajaccio, lui, est carrément réticent à revoir des promeneurs ou des baigneurs sur ces plages parce qu'elles sont trop difficiles à surveiller, c'est ce qu'il dit.
Bien, il est 6h12, allez-y vous témoigner, 32-16, vous êtes avec nous. Nous sommes avec vous, Édouard Philippe a donc annoncé hier que les Français pourraient partir en vacances en juillet-août, en métropole, en Corse, mais aussi dans les Dom-Tom, peut-être en Europe, ailleurs, dans l'espace Schengen, nous verrons bien, les frontières européennes pourraient ouvrir d'ici quelques semaines, avant l'été dans tous les cas. Le gouvernement a dévoilé un plan massif pour sauver le secteur du tourisme, 18 milliards d'euros. Parmi les mesures, chômage partiel prolongé jusqu'à fin septembre pour le secteur, fonds de solidarité, exonération des cotisations sociales patronales entre mars et juin et plan d'investissement d'1,3 milliard d'euros. Les professionnels du tourisme voient une lueur d'espoir et souhaiteraient sauver leur saison estivale grâce aux Français. Aux touristes français en Haute-Savoie, au camping Le Solitaire, à Saint-Joriot, au bord du lac d'Annecy. Nous retrouvons Florence Donjon qui a poussé les portes de ce camping.
Servane a repris le camping familial de 200 emplacements il y a 5 ans. Aujourd'hui, elle a le sourire. Le téléphone sonne de nouveau pour de bonnes nouvelles.
Solitaire du lac, bonjour.
Au bout du fil, un couple d'habitués qui vient chaque été.
Alors moi j'ai bien noté, 23 juillet, 30 août, donc on y croit.
Une confirmation de réservation d'un séjour d'un mois, de quoi redonner du baume au cœur à la gérante. Habituellement en juillet, 80% de sa clientèle est étrangère. Cette année, elle devra faire une croix dessus. Elle compte donc sur les Français.
Il me confirme en disant, maintenant qu'on peut bouger, on va venir. Quoi. On va peut-être pouvoir avoir du monde quand même, ne serait-ce que des gens de passage, des gens des alentours qui, normalement, partaient plus à l'étranger.
Reste encore une inconnue, la date de réouverture des campings. qu'importe, Servane Xafer pour tout remettre en ordre pour le jour J.
Il y a les mobilhomes, le nettoyage des sanitaires, l'entretien du parc. C'est quelque chose qu'on met en place, mais là on s'active un petit peu pour que ça soit parfait.
Du côté des Gîtes de France, les réservations reprennent également.
Ça s'est multiplié par 4, 5, 6, 7.
Et tout sera prêt pour accueillir des clients, estime Solange Escure, la directrice générale de la Fédération nationale.
Là, nous avons mis en place un protocole sanitaire spécifique à la situation que l'on connaît. Nos propriétaires vont être équipés. Nous leur avons préparé un kit complet de conseils avec une checklist pour préparer les hébergements en toute confiance pour nos clients et leurs clients.
La Fédération assure à ses clients qu'elle procédera à un remboursement intégral s'ils ne peuvent partir à cause de l'évolution de l'épidémie.
Il est 6h14, les gîtes, les chambres d'hôtes, oui, ça va fonctionner hein, en France cet été. Les hôtels aussi en France. Et puis les campings. Nicolas Daillot, que nous retrouvons presque tous les jours avec nous. Ça va, Nicolas? Je vous appelle Nicolas parce que je vous vois presque tous les matins hein, maintenant. Bon, vous êtes président.
Exactement.
Vous êtes président de la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air et notamment, évidemment, hôtellerie de plein air, le camping hein, avant tout. Je défends ce tourisme-là parce que c'est un tourisme populaire, un tourisme maintenant de grande qualité et c'est un tourisme qui est en plein développement. Il faut quand même le rappeler. Alors, Nicolas Daillot, vous êtes propriétaire d'un camping dans le Finistère. Vous étiez hier, évidemment, vous avez participé à cette grande réunion autour du tourisme. Les Français vont pouvoir partir en vacances cet été. D'abord, vous êtes soulagés, j'imagine. Vous allez ouvrir votre camping cet été.
Tout à fait. Alors, nous étions confiants, mais c'est vrai que le fait que le Premier ministre l'ait dit clairement hier, en parlant de juillet et août, au point d'ailleurs que certains ont déduit que juin était définitivement fermé, ce qui n'est pas certain du tout, puisqu'il a aussi parlé peut-être du 2 juin pour les zones, les départements verts. Mais c'est vrai que ça a déjà un effet sur le téléphone, comme vous l'avez dit dans votre reportage.
Oui.
Les réservations vont repartir grâce à ça, puisque là, l'élan a été donné.
Est-ce que, par exemple, pour votre camping, les réservations sont reparties?
Oui, on a eu des réservations hier, ça a recommencé alors que c'était très plat. Et on a des clients qui, là, commencent à reprendre des couleurs et qui commencent à être confiants et vont se positionner pour juillet et pour le mois d'août.
Pour juillet, pour le mois d'août et pour les mois qui suivront. Parce que si c'est ouvert en juillet-août, ça sera évidemment ouvert en septembre, octobre ou novembre, si tout va bien, hein. Encore une fois.
Oui, d'ailleurs, il y a de plus en plus de campings qui envisagent d'allonger la saison. Beaucoup, vous savez, ferment au mois de septembre. On a d'ailleurs demandé à la ministre du Travail d'accélérer dans la transposition, dans l'extension d'un accord de branche qui nous permet d'embaucher nos salariés sous forme de contrat saisonnier pendant une durée plus longue, parce qu'on va sans doute avoir besoin d'embaucher nos salariés jusqu'en octobre ou novembre, en espérant que l'automne puisse compenser la perte du printemps.
Contrat saisonnier, durée plus longue, c'est une question que je poserai à Muriel Pénicaud, ministre du Travail, qui est mon invité tout à l'heure, alors si j'ai bien compris. Hein
Je serai votre porte-parole.
Bon, dites-moi, Nicolas Daillot, vous allez aussi peut-être pouvoir recevoir des touristes venus de toute l'Europe.
Alors ça, c'est franchement pas certain, puisque
Mais c'est possible.
C'est pas certain, d'ailleurs. C'est possible, tout à fait. D'ailleurs, pour nous, c'est important parce que ça représente un tiers de notre clientèle. Alors, on était déjà prêts psychologiquement à ne pas avoir de touristes européens cette année. Il est vrai que de la Commission européenne, mais également le ministre des Affaires étrangères qui participait à la réunion hier, nous a dit que rien n'était sûr, mais que dans la deuxième quinzaine de juin, on peut imaginer l'ouverture des frontières, notamment de Schengen. Et donc, peut-être que les Allemands, les Hollandais, les Belges pourront venir dans les campings français.
Bien, espérons. Bien, peut-être le 2 juin, donc, réouverture des établissements en zone verte. Le plan sanitaire, vous me dites, le plan sanitaire n'est pas validé, c'est-à-dire?
Oui, c'est-à-dire qu'on est évidemment content de la réunion d'hier, côté financier, côté affichage de l'ouverture juillet-août, mais c'est vrai que le bémol, c'est que nous pensions que les différents protocoles sanitaires qui ont été présentés par les professionnels du tourisme auraient été officialisés par le Premier ministre, et ça n'est pas vraiment le cas, dans la mesure où les arbitrages n'ont pas été rendus, le ministère de la Santé notamment ne nous a pas fait toutes les remontées sur notre projet, ce qui fait que les professionnels ne savent pas vraiment quels seront les contours exacts du protocole, et c'est important pour se préparer. On peut pas pour l'instant passer les commandes, on peut pas modifier les équipements. On espère avoir des réponses la semaine prochaine.
Bien, Nicolas Daillot, j'ai une dernière question. Je réserve dans votre camping, mais imaginons que tout à coup la situation se dégrade à nouveau, que nous repassions dans des zones rouges partout en France et que nous reconfinions. Vous me remboursez ?
Oui, on va demander à nos adhérents au Camping de France de modifier les conditions générales de réservation de façon à lorsqu'il y a une décision administrative qui ne permet pas d'accueillir le client, que celui-ci puisse récupérer son argent pour pouvoir le réutiliser ailleurs pour les réservations qui vont commencer dès aujourd'hui et à condition évidemment qu'il y ait une décision administrative de fermeture.
Merci Nicolas Daillot, merci à vous. Et bonne journée. Je sens que vous avez le moral, là. Ça va mieux.
Exactement.
Ça va mieux. Bien. Merci beaucoup. Il est 6h19. Vous êtes sur RMC. Tiens, Michael est là. Michael est à Targon, en Gironde. Bonjour, Michael.
Oui, bonjour, Jean-Jacques.
Ça va, Michael. Vous êtes marié en septembre dernier. Vous aviez prévu de partir faire une fête à combien? 35, je crois. Hein,
oui, c'est
à
ça.
Bali. Bon, là, c'est râpé, hein. C'est râpé, votre fête à Bali, Michael.
Exactement. C'est râpé. Alors, ça va être compliqué aussi pour récupérer les arts.
Oui.
Versés pour les réservations des différents logements via BNB, parce qu'ils ont une politique qui avance au fil du temps. Donc, là, ils remboursent pour l'instant jusqu'au 15 juin sans trop rechigner, mais par contre, si je veux moi obtenir le remboursement pour août, je suis sous les conditions normales, donc je perds presque 60% de mon argent.
Aïe.
Voilà.
Bon,
donc, c'est un peu compliqué.
Tiens, je parlerai tout à l'heure à mon invité d'Airbnb et de Booking et de toutes les réservations qu'on fait comme ça par des organismes en ligne. Michael, qu'allez-vous faire alors? Vous avez entendu Edouard Philippe qui nous annonce des vacances en métropole ou dans les des dom-toms, hein.
Exactement. Donc, quand j'ai entendu l'annonce hier, afin de pouvoir avoir un petit bol d'air, pour le coup en famille et non plus en communauté, j'ai fait une réservation en Corse sur une huitaine de jours pour août, en prenant le soin d'avoir une assez grande liberté sur les conditions d'annulation. Et de ce fait, je crois que je peux annuler là jusqu'à la mi-juillet.
Ah bah ça c'est génial.
Sans perte d'argent. Il y a que le ferry qui pose problème. Mais bon, j'ai pas très très bien étudié la question, donc je vais pas m'avancer. Mais voilà, eux ils veulent faire des avoirs, il me semble.
Bon, Michael, je conseille à toutes celles et ceux qui veulent aller en Corse d'ailleurs de se dépêcher, hein, de réserver parce que si il c'est ouvert depuis l'annonce du Premier ministre, je suis sûr que ça y va à fond les réservations. Mais bon,
il reste pas grand-chose à bon prix effectivement.
oui. Il faut en profiter. Vous avez eu raison, Michael, de vous y prendre tout de suite. Merci à vous, dans tous les cas.
Merci à vous, bonne journée.
Et merci d'être sur RMC, d'être avec nous, le 32-16, notre lien. Vous êtes avec nous, nous sommes avec vous, Mathieu Rouault, Charlemagne, que nous allons retrouver dans un instant. Et puis Quentin Vinet, qui est là, Charlemagne.
Non, j'arrête. Il est là.
J'arrête avec ça. Bon, 8h21, à tout de suite.
RMC, 6h-9h,
Bourdin Direct. Et 6h24, Charles Magnien est donc avec nous tous les matins. Trois histoires, trois images. J'ai dit 8h21 tout à l'heure, non?
Oui.
Rassurez-vous, il est 6h24. Hein. Pas de panique. Je sais pas, j'étais emporté. Je le disais, c'est comme le footballeur qui fait un dribble de trop, vous savez. Il a dribblé une fois, deux fois, c'est formidable, l'euphorie, paf, troisième dribble, il se fait piquer le ballon. Tous les matins, trois histoires, trois images insolites. Les cafés et les restaurants des zones vertes qui devraient pouvoir rouvrir à partir du 2 juin, avec évidemment des conditions sanitaires strictes. Et un peu partout dans le monde, les idées ne manquent pas pour faire respecter les distances entre les clients,
oui,
Charles.
Première idée, le verre ou le plexiglas pour séparer les tables et les clients. On a vu des exemples un peu partout dans le monde ces derniers jours, Italie, Espagne, Chine. Eh bien en France, c'est un créateur normand qui propose d'aller plus loin en développant, regardez, des grandes visières XXL suspendues au-dessus de chaque place, des sortes de lustres en plexiglas. On mettrait les clients sous cloche, comme des fromages, ça peut en tenter certains. Si vous voulez éviter l'option verre ou plexiglas, vous pouvez tout simplement écarter, espacer les clients les uns des autres. Et pour ça, il faut condamner certaines tables, certains sièges dans le restaurant. Aux États-Unis, un restaurant de Caroline du Nord a installé des mannequins, des poupées gonflables pour indiquer aux clients les places interdites. Ça fait un peu bizarre à l'image, même si j'en connais qui n'ont pas peur de passer une soirée en tête-à-tête avec une poupée gonflable. Mignon.
Pourquoi est-ce que vous touchez Quentin Vinet?
Plus mignon, regardez en Thaïlande, peut-être vraiment... pour Quentin, ce restaurant qui installe des peluches pandas sur les places interdites, là aussi c'est mignon. Là on peut caresser son voisin qui est tout doux. En revanche, à éviter absolument l'idée de cette influence danseuse américaine qui a lancé, regardez, des masques cocktails, des masques avec un petit trou au niveau de la bouche pour laisser passer une paille et donc siroter son cocktail tout en étant masqué. Évidemment, votre masque devient complètement inutile, mais visiblement, ça séduit. Hein. Il est en rupture de stock sur le site de cette créatrice qui précise tout de même que son masque n'est pas recommandé pour le personnel soignant. Elle a au moins cette défense de préciser que ça marche moyen à l'hôpital.
Vous avez eu le ridicule. Non, mais déjà, le monde avec un masque, le monde d'après. Alors, c'est le monde d'après.
Ouais, ouais, il y en a qui tiennent à leur mojito l'été. Ouais. Ouais.
Histoire du jour. En Égypte, écoutez bien et regardez, un dompteur de lions obligé de tourner ses spectacles dans son salon.
Oui, ou plutôt dans le salon de sa mère, qui habite au 8e étage, dans un grand immeuble du Caire. Ashraf, c'est son prénom, est au chômage technique à cause du confinement. Les cirques sont à l'arrêt en Égypte. Il a donc décidé de télétravailler, comme beaucoup de salariés. Chaque jour, il fait venir l'une de ses lionnes dans l'appartement de sa mère pour s'entraîner et diffuser ses prestations sur Internet. Il explique que sa maman a eu un peu peur pour les meubles au début, mais jusqu'ici, tout va bien. Idem pour les relations avec les voisins qui croisent Ashraf et sa lionne tous les jours dans l'escalier de l'immeuble.
Non.
Les voisins assurent que tout va bien. En même temps, quand votre voisin se balade avec une lionne en laisse, vous y réfléchissez à deux fois, à mon avis, avant d'aller râler, avant d'aller toquer à la porte et de dire « Faites un peu trop de bruit avec votre lion, là, dans l'appartement. » Tout va bien dans l'immeuble.
Le lion monte dans le coffre de la voiture, à l'arrière, sans problème.
Oui, matin,
vous avez sans problème. J'ai vu tous ceux qui étaient autour du dompteur
on sait se mettre derrière la porte. Ah oui, dans le hall de l'immeuble,
Oui, c'est sûr. Il est 6h28. Merci Charles, vraiment merci. 6h28, c'est un plaisir tous les matins. Le café, la machine à café et les capsules qui vont avec. 32-16, la touche 5, c'est Quentin Vinet, le spécialiste.
Et le mot matin, par SMS au 7-32-16.
Bien, qu'allons-nous faire?
À suivre, depuis les annonces d'Edouard Philippe hier, les réservations pour les vacances d'été ne s'arrêtent pas, notamment dans les campings ou même sur les sites des agences de voyage. René-Marc Chicly préside le syndicat des entreprises de Tour Operating. Il est avec nous juste après le journal de 6h30 sur RMC.
Il est presque 6h30, un tout petit peu d'avance, c'est rare chez moi. Un tout petit peu d'avance, c'est Anne-Sophie Balbir qui est là pour les dernières informations. Anne-Sophie, bonjour.
Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Premier week-end post-confinement, le parfum d'une liberté retrouvée. Les Français peaufinent leur programme, ce sera shopping, apéro, barbecue, balade en famille ou entre amis. Nous pourrons partir en vacances en juillet et en août, annonce du Premier ministre Édouard Philippe. La SNCF relance dès ce matin les réservations des TGV et Intercités. Et puis, le 2 juin prochain, date de réouverture des cafés et restaurants. C'est en tout cas l'objectif du gouvernement pour les zones classées vertes. Le plafond des tickets restaurants va doubler pour soutenir le secteur. RMC 6h30. Cela faisait deux mois qu'on attendait ça, pouvoir partir en week-end. Et là, ça y est, premier week-end déconfiné, à la mer, à la campagne, en tout cas pour beaucoup, partout, sauf à la maison, à condition évidemment de respecter la distance de 100 km. Alors qu'avez-vous prévu de faire? Le reportage de Marion Fournet.
S'aérer, dépenser, se réunir en famille ou entre amis. Lilia, Lise et Odile savent déjà comment elles vont occuper leur premier week-end déconfiné.
Je vais aller faire les boutiques, parce que là du coup j'ai fait des économies, mais bon, elles m'ont pas servi à grand chose vu que je suis restée chez moi.
Marcher un peu plus que notre kilomètre autour de chez nous, un peu les magasins, enfin rien vraiment de spectaculaire.
On va prendre les vélos et on va trouver un coin pour pique-niquer.
Le programme de Sophie est lui aussi tout trouvé, balade samedi et pour dimanche.
Un barbecue improvisé sur notre terrasse avec nos enfants et leurs chéris.
Le barbecue sera sans nul doute l'une des activités phares de ce week-end. Rémi est boucher à Nice et il croule sous les commandes.
C'est côte de bœuf, saucisse, brochette. Il n'y a pas beaucoup de sauté de veau ou de daube. Hein. C'est uniquement des plats pour faire en famille ou entre amis autour d'un bon verre de rosé et d'un bon barbecue, quoi.
Que ce soit près d'un grill, dans les boutiques ou en famille, un seul souhait pour les Français ce week-end, profiter de la liberté retrouvée.
Et il y a une autre bonne nouvelle. Ce matin, nous allons pouvoir partir en vacances cet été en France et en Outre-mer, sous réserve bien sûr de possibles restrictions très localisées en fonction de l'évolution de l'épidémie. Édouard Philippe, le Premier ministre, affirme que nous pouvons dès maintenant faire nos réservations côté logement et aussi côté transport, Rémi.
Oui, juste après la déclaration du Premier ministre, la SNCF a annoncé, confirmé hier l'ouverture des réservations pour les vacances d'été. Vous pouvez donc réserver vos billets de train pour les mois de juillet juillet et d'août. Dès ce matin, j'ai d'ailleurs fait le test il y a quelques minutes, Paris-Montpellier en août, ça marche. Les billets sont échangeables et remboursables sans frais. La SNCF qui envisage pour l'instant de faire circuler 100% des TGV et intercités prévus cet été, sous réserve de restrictions gouvernementales évidemment. La compagnie ferroviaire avance d'ailleurs prudemment, elle ne vendra qu'une place sur deux dans ses trains au moins jusqu'au 2 juin. Pour rassurer les passagers, la SNCF assure également que tous les trains sont nettoyés et désinfectés tous les jours. Pour les avions en direction des dom-tom, c'est un peu plus long, les plannings sont en train d'être mis en place. Le ministère des Transports et Air France nous indique que les compagnies aériennes sont en mesure d'augmenter le nombre de vols en fonction de la demande.
Rémi Inc, merci. Autre annonce très attendue, la date de réouverture des bars, cafés et restaurants. Tout dépendra là aussi de la situation sanitaire, mais le gouvernement table sur le 2 juin dans les départements classés verts. Pour soutenir le secteur, le plafond des tickets restaurants passera alors de 19 à 38 euros, utilisables les week-ends et jours fériés jusqu'à la fin de l'année. Satisfaction pour les salariés et les professionnels comme Jonathan Charlois. Il tient un restaurant à Boulogne-Billancourt, près de Paris.
Dans mon établissement, un déjeuner pour 19 euros, c'est pas possible. En doublant ce montant-là, on va pouvoir déjeuner sur entrée plat, plat dessert. Donc on va pouvoir avoir de plus de clients. J'espère juste qu'en ayant la possibilité de pouvoir dépenser plus dans des restaurants, ils vont changer leurs habitudes, se faire un peu plus plaisir grâce au doublement du montant. Et faire changer les habitudes des gens, c'est un peu compliqué.
À l'issue du comité interministériel du tourisme hier, Édouard Philippe a annoncé que l'État allait consacrer au secteur un effort global de 18 milliards d'euros. Le plan contient les mesures de chômage partiel, les prêts garantis par l'État, les exonérations sociales ou encore les reports d'impôts. Au moins 150 000 collégiens de 6e et 5e feront leur retour en classe la semaine prochaine dans les zones vertes. Ça représente environ 4 000 établissements selon le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer. Et puis une question toujours d'actualité ce matin. Y a-t-il un lien entre le coronavirus et la maladie de Kawasaki ? Ça fait de moins en moins de doutes d'après Santé publique France. Depuis quelques semaines, des enfants ont été admis en réanimation après avoir présenté des symptômes de cette maladie respiratoire. Benjamin Smadja.
Depuis le 1er mars, 125 cas d'enfants atteints par la maladie de Kawasaki ont été signalés sur le territoire. 90 d'entre eux se trouvent dans un état grave et sont donc hospitalisés en réanimation. Un décès est à déplorer chez un enfant de 9 ans qui présentait des comorbidités. Sur les 125 cas recensés, 52% ont été testés positifs au Covid-19 et le lien au virus est probable chez 12% de patients supplémentaires. Pour Santé publique France, ces résultats sont donc très en faveur d'un lien entre le coronavirus et la maladie de Kawasaki. Le professeur Belot, qui anime le comité de pilotage de Santé publique France, met en avant une autre donnée. La majorité de ces enfants ou adolescents touchés sont d'origine africaine. Impossible à expliquer pour le moment. Les chercheurs se penchent sur plusieurs hypothèses, notamment la piste génétique.
Le dernier bilan de l'épidémie, 351 décès de plus en 24 heures en France. Le nombre de patients en réanimation continue de baisser. Le sport en France, ça reprend petit à petit. Reprise des entraînements dans le cyclisme, on en parlait en début de semaine. Reprise des entraînements pour les nageurs professionnels. Aussi, Jordan Olivier.
Allez, Fantine.
Premier plongeon depuis près de 2 mois pour Fantine Le Saffre, la pensionnaire du club d'Antibes est ravie de retrouver les bassins.
J'ai perdu tous mes appuis, donc c'est un peu compliqué, je me sens lourde dans l'eau, mais globalement, ça fait vraiment du bien d'avoir retrouvé le chemin du bassin.
Médaille d'or lors des championnats d'Europe en 2018, la nageuse a pu reprendre l'entraînement grâce à son statut d'athlète de haut niveau, mais pas seulement.
J'ai passé plusieurs examens médicaux, des électrocardiogrammes, tout ça pour voir si tout allait bien. Un petit test psychologique aussi, voilà, tout. Le protocole habituel, je dirais, pour reprendre l'entraînement correctement, quoi.
À quelques kilomètres d'Antibes, la piscine Fernand Anelli de Nice, Evelyne, qui habite juste en face, avait pris l'habitude de s'y rendre 4 fois par semaine avant sa fermeture. Et voir les professionnels reprendre lui procure une certaine excitation.
Ça me donne envie de reprendre, oui, le plus rapidement possible, en espérant qu'ils ouvrent dans pas très longtemps. J'ai hâte que ça ouvre, parce que franchement, c'est agréable.
Evelyne va devoir pourtant encore patienter. Les piscines publiques ne devraient pas rouvrir avant plusieurs semaines.
Les courses, Mathieu, c'est à Vincennes.
Avec le pronostic de la Dream Team des courses RMC, favori numéro 4, Dreamer Boy Outsider, numéro 14, Donuts de la Doue,
le 4 et le 14.
Bien, nous allons continuer à parler voyage, tourisme avec notre invité René Marchicli, président du syndicat des entreprises de tour operating et vice-président de la Confédération des acteurs du tourisme. René Marchicli, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, j'ai plein de questions à vous poser. Mais d'abord, regardons, parce qu'on parle beaucoup des vacances, de nos vacances, à juste raison, hein. Possible cet été, c'est ce qu'a annoncé le Premier ministre, possible en France, métropolitaine et dans les dom-tom, c'est important de le préciser. Mais ailleurs en Europe, qu'est-ce qui peut se passer? Bah, il est possible que les frontières rouvrent partout ailleurs en Europe. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais c'est possible. La porte n'est pas fermée, loin de là. Que fait l'Europe aujourd'hui? Les différents pays de la zone Schengen, hein, je précise.
Alors, pour le moment, chacun fait ce qu'il veut, en réalité. L'Union européenne voudrait une réponse coordonnée. Pour le moment, c'est plutôt en ordre dispersé. Je vous donne quelques exemples. L'Autriche va rouvrir sa frontière avec l'Allemagne à partir du 15 juin, mais elle ne sait pas encore si elle le fera avec l'Italie, un des pays les plus touchés par l'épidémie. L'Allemagne rouvrira dès demain sa frontière avec le Luxembourg et elle parle d'une levée des restrictions de circulation pour mi-juin avec la France et la Suisse. L'Espagne, elle évoque une possible réouverture en juillet. En attendant, elle impose une quarantaine à tous les voyageurs qui arrivent de l'étranger. La France fait pareil dans l'autre sens pour les voyageurs arrivant d'Espagne et les contrôles sont renforcés aux frontières côté basque et côté catalan pour les frontaliers qui viennent faire le plein de cigarettes et de tabac. Et puis, les trois pays baltes, l'information est tombée dans la nuit, les trois pays baltes vont rouvrir leurs frontières, mais entre eux, Lituanie, Lettonie, Estonie, aucune restriction de circulation. C'est la première bulle de voyage, en quelque sorte, au sein de l'Union européenne pour relancer de ces trois pays dans lesquels l'épidémie est maîtrisée.
Oui, dans laquelle l'épidémie est maîtrisée. Puis ce sont trois pays très ouverts qui probablement s'ouvriront très rapidement aux touristes de la zone Schengen. Nous verrons bien. René Marchicli, en Europe, bon, je vais revenir évidemment sur la France, mais en Europe, ça commence à se dessiner. Il est possible qu'avant l'été, il est possible qu'avant l'été, on puisse voyager partout dans la zone Schengen, encore une fois, et il est possible aussi que les habitants d'autres pays européens de cette zone puissent venir en France.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, on en avait parlé il y a encore quelques semaines.
Oui.
Ça s'ouvre. Alors, ça s'ouvre peut-être avec quelques difficultés, des négociations qui sont en cours. Là, en ce moment, on voit bien qu'il y a des négociations entre les différents pays, la France et l'Espagne. Mais
l'Allemagne et la France.
Globalement, on avait fixé à peu près le 15 juin où on sentait que l'espace Schengen allait s'ouvrir. Oui. Même si aujourd'hui, les autorités françaises nous laissent entendre
que ce n'est
pas encore fait.
Oui.
Mais on pense quand même que ça sera fait. Pour nous, c'est très important.
C'est très important.
C'est très important.
Parce que bon, très bien, le tourisme franco-français, très important. Mais j'imagine, si les touristes européens peuvent venir en France, circuler partout, aller en Espagne, les Italiens en France, les Français en Italie, enfin bon, etc., etc., pour le tourisme, pourquoi est-ce si important, Renaud?
C'est bon pour tout le monde. C'est-à-dire, j'ai écouté Nicolas Daillaud tout à l'heure, qui est très, très content de voir arriver les Français. On est tous contents, on a fait tous les efforts nécessaires, y compris l'aménagement des conditions de vente. Mais aujourd'hui, si les étrangers viennent en France, ça va compléter complètement le dispositif d'accueil et ça va peut-être un peu renouer avec l'occupation des hôtels et des campings et tout ça. Pour nous, c'est la même chose. On va reprendre un petit peu du poids avec nos principales destinations. Imaginez la Grèce, première destination de l'été dernier.
Bien sûr.
L'Italie, l'Espagne. Alors après, l'incertitude totale, c'est les conditions d'accueil.
Voilà.
Comment, au niveau sanitaire, on va pouvoir mettre en place suffisamment de précautions pour pouvoir accueillir.
Et puis, quelles seront les conditions pour pouvoir aller ailleurs en Europe, hein? Quelles seront les conditions sanitaires,
hein? Ça va être
Est-ce qu'il faudra un passeport sanitaire? Est-ce qu'il faudra... Pour l'instant, c'est pas le cas, hein, le passeport sanitaire.
Sur l'Europe, ça m'étonnerait qu'il y ait un passeport sanitaire. Il y aura, à mon avis, ce qui serait idéal, c'est d'avoir des conditions sanitaires à l'échelle européenne.
Oui.
Pas un pays qui fait le contraire de l'autre.
Bien sûr.
Comme ça, les touristes vont être complètement perdus. Donc aujourd'hui, s'il y a un cadre européen en matière sanitaire, ça serait très très bien. Et puis, il y a aucune raison que tous les professionnels sont capables aujourd'hui de mettre en place des conditions d'accueil sanitaire. Et on l'a vu, chacun fait preuve d'imagination. Mais c'est aujourd'hui encore une incertitude pour nous.
Bien, René Marchicli, restez avec nous. On va faire un peu de pub. Nous prendrons aussi Philippe, qui est dans l'Ain, qui veut partir en Bretagne. Et puis d'autres auditeurs qui sont là. Le 32-16, c'est notre lien. Vous êtes avec nous, nous sommes avec vous. Merci de partager ces matinées sur RMC, les 6h41.
RMC.
RMC, 6h-9h,
Bourdin Direct. Bien, René Marchicli, continuons. Tiens, nous allons prendre Philippe. Philippe qui est chef de cuisine, qui est un auditeur fidèle dans l'Ain. Bonjour Philippe.
Bonjour Jean-Jacques.
Vous allez partir en Bretagne?
Je vais attendre un petit peu avant de réserver.
Oui. Vous voulez aller où? Camping que...
Non, je dirais hors de question que j'aille dans un camping. Je ne veux pas aller m'entasser avec les gens.
Bah, comment faites-vous? Vous louez une petite maison? Vous...
Voilà, je loue une petite maison ou un truc comme ça, ou un appartement ou un hôtel à voir.
Mais, d'accord. Ouais. Mais n'attendez pas trop, René Marchicli. Il ne faut pas trop attendre parce que les réservations sont parties à fond, là.
Ah, déjà, elles étaient parties depuis le 11, le déconfinement. Oui. Et là, aujourd'hui, avec les annonces du Premier ministre, ça, dans les heures qu'on suivit, il y a déjà eu un pic sur les réservations.
Incroyable. Vous entendez, Philippe?
Mais alors, je vais vous poser une question, moi. Quand je vois les restrictions qu'on m'impose, qui sont tout à fait normales pour accueillir des enfants à la cantine mardi prochain,
oui.
C'est-à-dire qu'on va servir avec masque, visière,
oui.
Gants.
Oui. Et normal, parents, c'est normal, ça.
Tout à fait normal. On a à peu près 10% des gamins qui viennent à l'école et oui. Les parents, par contre, ils veulent pas les mettre à l'école, mais ils vont aller courir pour réserver des vacances.
Mais ça, je suis assez d'accord avec vous, Philippe. Je ne comprends pas les parents qui craignent de mettre un enfant à l'école, mais qui, d'un autre côté, sont prêts à tout pour retrouver des amis, pour, je sais pas, je comprends pas.
Moi non plus, j'arrive pas à comprendre et si je ne trouve pas de location parce que j'ai attendu trop longtemps, et ben tant pis, j'irai l'année prochaine. Mais je suis quand même assez sceptique.
Sur les conditions sanitaires, c'est ça qui vous... Alors René Marchicli.
Si c'est pour aller à la plage et puis qu'on puisse pas se poser, qu'on puisse pas, ou alors avec un masque qui fait 30 degrés, vous me direz en Bretagne, il fait rarement 30 degrés.
Oui, d'accord. Bah, il fait beau quand même parfois. J'enlève le parfois.
Ça produit de l'air, c'est beau, moi.
Bon, ben alors, vous voyez, René Marchicli, oui, les conditions sanitaires. Faut pas non plus trop s'inquiéter, mais il y en aura.
Oui, il faut se projeter quand même, Jean-Jacques, sur le mois de juillet-août. Hein.
Oui, c'est dans 2 mois.
On a vu des conditions sanitaires s'améliorer de semaine en semaine.
Oui.
Donc, sur juillet-août, on n'est pas dans les mêmes conditions sanitaires qu'aujourd'hui.
Oui.
Donc, c'est vrai que la proximité, la plage va être aménagée.
Oui.
Elle sera accessible, surtout dans des pays, dans des régions comme la Bretagne, où il y a pas forcément
la place.
Monde. Les étrangers seront peu là aussi, parce qu'ils ont le même contrat. Faut pas s'attendre à une suroccupation du territoire.
D'accord. Ben, merci beaucoup. Merci. Tiens, Bruno est avec nous, veut déménager au Portugal cet été. Bonjour, Bruno.
Bonjour, Jean-Jacques.
Vous êtes à Triel-sur-Seine, dans les Yvelines.
Tout à fait.
Vous voulez partir habiter au Portugal, Bruno?
Ah, c'est pas que je vais, c'est que je vais même.
Oui.
Maintenant, je suis complètement dans l'expectative de ne pas savoir si je vais pouvoir le faire.
Je pense que vous pourrez. C'est le 21 août?
Alors, c'est le 21 août, je sais pas, j'ai mes billets d'avion réservés avec la compagnie
Je ne m'inquiète pas beaucoup, hein, René Marchicli,
Pour
le Portugal.
Pour le Portugal, d'ailleurs, nos amis portugais sont déjà prêts.
Ils sont déjà prêts.
Pour recevoir les touristes. C'est parti
des pays très en avance,
très organisés, et qui a été peu touché.
Bon, ouais, merci alors, Bruno.
Merci beaucoup. Oui, excellente journée.
Merci.
Et puis, bon courage à tout le monde et merci à tous.
Eh ben merci d'être avec nous. Vous regardez la télé, vous écoutez la radio, Bruno.
La radio toujours.
C'est la radio toujours RMC. Merci Bruno. Merci René Marchicli. Alors maintenant les aides. Oui, mais le gouvernement aurait pu encore faire mieux. Mais c'est déjà pas mal. Est-ce que j'ai bien résumé?
Très bien, Jean-Jacques. Vous avez parfaitement résumé. Oui, mais. Mais alors c'est une logique. Nous ne retrouverons pas le niveau d'activité.
Oui.
Avant 2021. Donc toutes les aides aujourd'hui, que ça soit chômage partiel, exonération de charges, voire également d'autres aides qu'on a demandé, y compris un PGE sur 10 ans, tout ça c'est absolument nécessaire pour survivre.
Alors le chômage partiel va couvrir l'été, mais n'ira pas jusqu'à la fin de l'année 2020. Vous auriez aimé cela, hein ?
Aujourd'hui, on a eu des garanties. Pour l'instant, c'est pas encore officiel, mais qu'on irait jusqu'à mars 21.
Ah bon?
Quand même.
Ah bon?
Vous posez la question.
C'est bien parce que j'ai Muriel Pénicaud tout à l'heure. Attendez, note ça.
Pour les secteurs sinistrés,
mars 21,
Mêmes conditions, parce qu'il y a une question de conditions aujourd'hui.
Oui, évidemment.
Donc, c'est important d'en parler avec la ministre. Parce que ça, c'est un élément de survie absolument nécessaire.
Donc, chômage partiel, mars 21, pour qui?
Pour les secteurs sinistrés, on va appeler ça comme ça, ou les secteurs dont aucune activité va être retrouvée. Nous, on estime que notre secteur, par exemple sur 2020, entre mars et décembre, on est à moins 85%. Oui. Même s'il y a des belles mesures pour cet été, on va pas faire plus de 15% au mois d'août par rapport à l'année dernière. Surtout si il nous manque quand même tout le reste du monde, hein, même
oui,
si l'Europe s'ouvre.
Oui, c'est vrai.
Donc, c'est hyper important pour nous d'obtenir ces conditions. Les exonérations de charges aujourd'hui, elles se terminent au mois de juin. Faut les prolonger.
Évidemment.
Tout ce qui est exonération de charges, on a quasiment pas de chiffre d'affaires et on n'est pas ouvert. On n'a peut-être pas été fermé au niveau administratif, mais par essence, on a dit voilà, les commerces autorisés à ouvrir. Donc ce qui revient au même.
Oui, bien sûr.
N'étaient pas autorisés à ouvrir.
Bien
donc
sûr.
Voilà.
Bon, je note tout ça. Hein.
Donc c'est important. Elle le sait, elle travaille dessus. Mais c'est vrai qu'il faut qu'il y ait une identification de secteurs sinistrés dont nous saurons, je crois qu'il y en a trois. Particulièrement.
Bien, écoutez, j'espère.
Et ça se retrouve au niveau de la Confédération du Tourisme que vous avez cité tout à l'heure.
Bien
où
sûr.
On se retrouve tous. Et c'est vrai que c'est valable pour les autocaristes également. C'est valable. Il y a toute une corporation aujourd'hui de gens que vous voyez quand vous sortez dans la rue. Les bateaux sont à quai ou sur la Seine, etc. qu'il va falloir. Tenir sous perfusion jusqu'à mars 20.
Mais par exemple, dans les trains, il y a des mesures strictes qui ont été prises, mais les ferries, par exemple, pour aller en Corse, il va falloir comment faire hein, pour les mesures sanitaires. Ça va pas être facile, pas être évident. Hein.
Vous savez, nos amis de l'aérien, ils ont trouvé la solution. Hein.
Oui.
Bon.
Bah oui.
Et la solution, c'est... à moins de 50% ou 60% d'occupation, je fais pas voler mes avions.
Je fais pas voler, bon.
Donc il va falloir que maintenant, tout le monde dise, moi, voilà mes conditions d'exploitation sur lesquelles, là, je gagne même pas d'argent, mais je fonctionne. Et ça, c'est quand même très important.
Bien. Merci beaucoup, René Marchicli, d'être venu nous voir ce matin. C'est passionnant. Vous avez plein de messages, j'imagine. Hein.
Mais absolument. D'auditeurs qui souhaitent partir, qui avaient déjà réservé depuis le mois de janvier, par exemple, pour Véronique en Bretagne, et qui est soulagée, alors qu'elle habite à l'autre bout de la France, hein, dans l'Est, et qui est soulagée de savoir qu'au mois de juillet, elle pourra parcourir plus de 100 km et aller en Bretagne.
Ce qui est important, c'est l'information, c'est qu'au mois de juillet, à partir du 1er juillet, on pourra parcourir plus de 100 km. Ça, c'est.
Enfin.
Oui. Enfin. Bon, d'accord. Christophe est dans la Loire. Bonjour, Christophe.
Oui, bonjour, Jean-Jacques.
Bonjour, vous êtes artisan boucher, vous écoutez la radio, vous regardez la télé le matin, Christophe.
Non, on n'a pas le temps de regarder la télé. On a le temps d'écouter la radio.
Évidemment. RMC, ça fait longtemps, d'ailleurs.
Allô.
Oui, ça fait longtemps que vous écoutez RMC, Christophe.
Oula, ça fait... j'ai 51 ans et j'ai tout le temps écouté RMC, parce que génial. Mon père est artisan boucher, il écoutait RMC également.
Ah bon, ben oui.
Et moi,
bon,
je voulais... Juste intervenir ce matin, parce que ce qui me chagrine, c'est que nous, avec l'histoire du confinement, on a jamais coupé. Hein, on a
toujours travaillé. Vous avez toujours bossé, oui.
Tant mieux. On a fait le maximum pour les clients.
Oui.
Par contre, on n'a pas fait le maximum pour nous, pour tout ce qui est gel et masques. Et donc, on est en train de courir après des masques. Donc, on a des clients qui nous ont fait des masques tissus, c'est super sympathique, mais travailler toute une journée avec des masques tissus, c'est très pénible.
Oui.
Donc, on essaye d'avoir des masques chirurgicaux par rapport à la pharmacie, mais bon, ils n'arrivent pas à être livrés en temps et en heure. Mmh. Et je voulais intervenir par rapport à hier où je me suis un peu emporté avec un client. Enfin, il y a eu une altercation avec un client. Si vous voulez, on fait rentrer trois clients dans le magasin. Et donc, j'avais déjà un client qui était rentré, deux couples, ça faisait cinq personnes, et un autre client qui rentrait avec sa femme. Donc, je demande si sur un des deux, il n'y en avait qu'un qui pouvait rentrer pour être servi. Et ça lui a pas plu. Voilà. Donc, ouais. Il m'a acheté un paquet sur la banque. Et moi, je me suis emporté. Donc, c'est vrai qu'il ne faut pas qu'ils oublient, les gens, qu'on a vécu comme eux, ça. Nous, on était au boulot. On était hyper angoissés pour travailler. Très stressés. Et c'est un manque de respect. Et je vous appelle tout ça pour vous dire que sur le soir, quand je suis rentré à la maison, ils m'avaient envoyé un mail sur la messagerie en me disant que c'était inadmissible. Alors, peut-être que c'est inadmissible. Mais à la base, ce n'est pas parce qu'on est commerçant qu'on n'est pas humain. Donc, c'est comme la police, quand on critique les policiers ou qu'on critique les profs parce qu'ils ont fait des cadres par terre avec décret, ils gèrent la situation comme ils peuvent.
Mais donc, évidemment, nous, je suis complètement d'accord avec vous, Christophe, voilà. Complètement. Voilà. Merci,
comme
Christophe.
Tout à l'heure, là, j'allais sur mon autrice de magasin où le client, votre interlocuteur qui disait que les gens ne veulent pas mettre les gamins à l'école, mais par contre, ils veulent tous partir en vacances.
Oui.
Et c'est triste à mourir. Surtout qu'on a un gouvernement qui a tout fait pour les gens qui ne travaillaient pas. Quand on voit dans les autres pays comment que ça se passe, c'est triste à mourir. Que nous, ils critiquent le gouvernement. Moi, je n'ai pas voté pour ce gouvernement, mais ils ont tout fait pour les gens, tout fait pour les artisans.
Alors, au niveau chômage partiel, c'est vrai que ça a été bien fait hein, jusque-là. Bon, ouais, merci. Merci, Christophe.
Merci Jean-Jacques et pour bonne continuation. Merci à vous.
Allez, il est 6h53.
À suivre.
Oui,
dans Bourdin Direct, il y a du nouveau dans l'air avec Anthony Morel, puisque les avions se réinventent. On va voir notamment des robots capables de renifler le virus à bord. comme des chiens renifleurs. C'est déjà demain dans un instant sur RMC.
RMC. RMC.
C'est déjà demain.
Allez, c'est déjà demain avec Anthony Morel. Anthony, l'avion est obligé de se réinventer. Alors, pas facile évidemment d'éviter les contaminations dans une cabine fermée avec tous les passagers qui sont les uns à côté des autres. Vous avez des pistes. Airbus qui travaille sur un nez électronique. Attendez, parce que c'est incroyable. Capable de sentir la présence du virus à bord de l'avion.
Ouais, c'est assez fou, effectivement. Donc c'est un peu le même principe que les chiens renifleurs.
Oui, dont on a parlé ici.
Pour détecter la présence d'explosifs ou de drogue. Mais là, c'est un dispositif électronique qu'on placerait à l'avant de l'avion, à l'entrée, en gros, un capteur olfactif intelligent et qui serait capable de renifler l'air, de sentir ce qui se passe dans l'avion et de détecter la présence du coronavirus. C'est une start-up américaine qui s'appelle Konico qui travaille avec Airbus qui a mis au point ce dispositif. Alors, ce qui est complètement fou, c'est qu'en fait, ce sont des cellules vivantes, ce sont des neurones réels qu'on a couplés avec des processeurs informatiques et auxquels on a appris à détecter des molécules très particulières, des molécules spécifiques qu'on trouve par exemple dans les explosifs. Ça, c'est l'utilisation première de ces nez intelligents, de ces nez électroniques, mais qu'on va aussi apprendre à détecter la présence de virus dans l'haleine des passagers lorsqu'ils entrent dans l'avion. Donc c'est en phase de recherche en ce moment, mais c'est une piste très sérieuse explorée par Airbus.
Et puis l'intérieur des avions pourrait changer avec des cabines, des places, des sièges totalement réinventés.
Et oui, il va bien falloir. Alors il y a des choses qui sont très intéressantes imaginées par les designers. Ça va de très simple, la plaque de plexiglas qui va séparer chaque siège, qui va aller de votre tête jusqu'à l'accoudoir pour éviter les projections lors des éternuements. Autre piste qui est explorée, ce serait d'avoir des sièges tête-bêche. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez une rangée de trois passagers. À droite et à gauche, les sièges sont normaux et celui du milieu, il est inversé. Il fait face au dos de l'avion. Et donc, comme ça, chacun est un peu dans sa petite bulle. Si on est trois, voilà. Donc, c'est une idée comme une autre. Alors, une autre idée, ce serait de mélanger les passagers avec le transport de marchandises. C'est-à-dire, en gros, vous avez la moitié de l'avion qui est occupée par des êtres humains. Voilà. Vous avez la moitié des sièges qui sont occupés par du fret. Voilà, ce sera tirage au sort. Ça fonctionnera sûrement comme ça. Ouais. Faut optimiser parce que c'est ce que disait votre intervenant précédent.
Dans une caisse aussi, on peut voyager dans une caisse.
Potentiellement.
Alors, on est isolé.
On se met en position fétale comme ça et puis on optimise l'espace. Mais non, mais les avionneurs, enfin, clairement, les compagnies, elles ne peuvent pas voler à 50%. C'est juste pas rentable, c'est pas viable économiquement. Donc, toutes les solutions sont bonnes à prendre.
Et puis, dans les aéroports, la température des passagers sera contrôlée par des casques thermomètres.
Oui, alors ça, c'est très étonnant. Vous allez voir les images, pour ceux qui nous regardent sur RMC Découverte, de ce qui se passe à l'aéroport de Rome-Fiumicino, où le personnel de l'aéroport équipé de casques. Alors, ça ressemble à des casques de moto.
On dirait Daft Punk, mais à mi-visage.
C'est ça. Sauf qu'en fait, à l'intérieur du casque de Daft Punk, tu as des caméras thermiques qui vont, à 7 mètres de distance, détecter la température des gens dans l'aéroport. Donc, en scannant la foule du visage, on est capable de détecter instantanément qui est fiévreux. Voilà.
Et c'est angoissant, ça.
C'est un petit peu angoissant, mais c'est efficace.
Mais, mais c'est un monde angoissant.
On s'approche d'un monde assez angoissant.
Bon, merci Anthony Morel. C'est tous les matins impressionnant, évidemment. Il est 6h58, Jérémy. Et Tavernosque, les Annonais, c'est dans l'Ardèche, à côté d'Annonay. Bonjour, Jérémy.
Bonjour Jean-Jacques.
Merci. C'est la télé ou la radio le matin?
C'est la radio le matin.
C'est la radio RMC le matin, Jérémy. Merci d'être avec nous. Depuis longtemps d'ailleurs, vous êtes fidèle?
Ça fait plus de 10 ans à peu près.
Plus de 10 ans, Jérémy. Jérémy, vous êtes agent SNCF. Vous avez bien fait d'écouter ce matin parce que vous avez gagné votre machine à café et les capsules qui vont avec.
C'est super. Merci Jean-Jacques. Je vais juste rajouter un petit truc, c'est la première fois que j'essaye.
Bravo. Comme quoi, bravo Jérémy. Bonne journée.
Merci beaucoup. Merci. Bonne journée à vous, bonne continuation.
Merci, au revoir Jérémy.
Au revoir.
Il est 6h59.